à travers tout le témoignage. Et c'est vrai que moi, j'ai participé, enfin, je suis allé au Puy du Fou, j'ai vu, c'est merveilleux, quoi. Voilà. Donc, vous, je vais commencer la prédication. Vous rappelez que, peut-être qu'il y a environ de cela un mois, nous avons parlé du découragement et de l'encouragement. Et j'aimerais ce matin aborder donc avec vous un autre thème qui me paraît tout aussi important et qui me tient à cœur. Ce thème, c'est celui de la culpabilité. Alors, vous me direz peut-être pourquoi la culpabilité ? Eh bien, il y a trois raisons pour cela. La première, c'est parce que c'est une réalité spirituelle, la culpabilité. Deuxièmement, parce qu'il est essentiel de pouvoir discerner entre la vraie et la fausse culpabilité, mais aussi entre la bonne et la mauvaise culpabilité. Et puis troisièmement, parce qu'il est évident que nous portons toutes et tous des culpabilités diverses, plus ou moins lourdes, plus ou moins profondes, que nous traînons indûment dans nos vies comme des boulets pesants. Et ça, des fois, ça fait mal. Et je vous propose donc ce matin, en une demi-heure, je sais que c'est peu, mais de faire un survol de ce que la Bible dit sur la culpabilité, et puis voir si cela peut avoir une incidence sur le quotidien de nos vies. Alors, tout d'abord, c'est quoi la culpabilité ? Alors, on ouvre le petit Robert, et on voit, la culpabilité, c'est l'état d'une personne coupable, et est coupable celui ou celle qui a commis une faute. Alors, vous voyez bien que ce que je viens de dire n'a de sens que si l'on se réfère à une loi ou à une autorité reconnue. Et pour nous, en France, par exemple, eh bien, nous avons le code civil qui régit nos lois. Si nous les transgressons, eh bien, nous sommes coupables parce que, bien évidemment, personne n'est censé ignorer la loi ni de vivre au-dessus des lois. Hein, ça, vous le savez. De même, pour nous, chrétiens, ce sont les lois bibliques qui définissent ce qui est bien et ce qui est mal. Ce que Dieu a décrété juste, mais aussi ce que Dieu a décrété injuste. Et en réalité, nous nous soumettons à l'autorité que nous reconnaissons. Alors c'est vrai, si nous ne croyons pas en Dieu, nous ne nous soumettons pas à son autorité. Mais d'une manière générale, nous sommes coupables lorsque nous transgressons un interdit, mais aussi lorsque nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Alors c'est aussi l'exemple de quelqu'un qui est non-assistant de sa personne en danger. Bibliquement, et c'est la position qui nous intéresse le plus ce matin, toute transgression à la loi divine s'appelle, vous le savez, le péché. Dans le livre du Lévitique 5, verset 6, on peut lire ceci, alors c'est ce qui est marqué derrière, « Celui qui se rendra coupable d'un péché, il en fera l'aveu. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail. » Alors voilà ce que dit clairement ce texte, c'est que lorsque l'on pêche, lorsque l'on se rend coupable devant Dieu, eh bien c'est une loi spirituelle, c'est un décret divin, et cela s'applique à tous les hommes, même à ceux qui ne croient pas. Le péché n'est pas un acte anodin, c'est grave de pécher. Et ça peut avoir aussi des conséquences très très lourdes dans nos vies, parce que le péché a un prix et ça coûte cher. De péché. Ce que révèle aussi ce texte, c'est qu'un péché ne doit pas être caché, il doit être reconnu, il doit être avoué. La reconnaissance du péché, c'est une étape essentielle sur la voie du pardon. Avouer une faute, c'est admettre l'avoir commise. Et enfin, ce texte nous dit que tout péché a un prix. On ne pêche pas impunément, c'est-à-dire on ne peut pas dire « tiens, je pêche, mais bon, ça n'a pas de conséquences ». S'il y a des conséquences, nous devons payer le prix du péché. Et ici, le texte demande d'offrir en sacrifice de culpabilité eh bien, la vie d'un animal. C'est vie contre vie. La vie d'un animal innocent contre la vie du pécheur. Et cela pourrait être pardonné. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Eh bien, parce que nous sommes toutes et tous concernés. La culpabilité humaine, le péché originel... Alors, c'est vrai que c'est pas un scoop que j'apporte ce matin, c'est au contraire une vérité spirituelle. La Bible nous révèle que nous sommes toutes et tous pécheurs par la désobéissance d'Adam. En effet, Adam a ouvert la porte au péché qui s'est répandu comme un cancer dans sa descendance, atteignant tout homme et même l'humanité tout entière, la rendant coupable vis-à-vis de Dieu. Et c'est Romains 5, 12 qui le dit, hein. « Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes, car tous ont péché. » Alors désormais, chaque homme qui naît va en être pécheur et coupable devant Dieu. Et le psaume 51, 7 de David dit « Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais marqué par le péché. » Depuis l'origine, j'étais marqué par le péché. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ce décret divin. On peut le contester, on peut le trouver injuste. D'ailleurs, quand vous en parlez avec des non-chrétiens, ils vous disent que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste. Pourtant, c'est une réalité biblique. Tout homme est spirituellement coupable devant Dieu, car Dieu, le Créateur du monde, notre Créateur, l'affirme sans ambiguïté. Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Est-ce que nous avons ce matin cette notion de juste culpabilité? C'est quelque chose qui est juste. Dès lors, le processus de Lévitique 5, verset 6, va s'appliquer totalement à nos vies, et cela en trois phases. La première et deuxième phase, David reconnaît pleinement son état de pécheur, la domination du péché sur sa vie. Il reconnaît sa culpabilité. Est-ce que nous l'avons fait nous-mêmes? Est-ce que nous avons reconnu notre culpabilité? La troisième phase, il y a un prix à payer, et Dieu dit, Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Alors c'est vrai, c'est la tuile. Chaque fois que je pèche contre Dieu, voilà que je mérite la mort. Et ça, c'est vrai que c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais ça, c'est le prix à payer, c'est le prix du décret divin, la mort. Et en réalité, si Dieu appliquait à la lettre, vous savez, ce décret divin, ben, il n'y aurait plus aucun être humain sur la terre de vivant. On ne serait plus là, même nous. Hein. Ce qui nous sauve, c'est que Dieu possède deux grandes vertus, parmi des milliers, bien sûr. Hein. Deux attributs qui vont entrer en action, c'est l'amour et c'est la justice. Vous voyez, si Dieu, lui, il n'était que amour, comme certains le pensent, eh ben, il dirait au pécheur, « Bon, j'oublie que tu es coupable. » Mais ce ne serait pas juste, car nous ne sommes pas innocents, mais nous sommes bien coupables. Et si Dieu n'était que justice, eh bien, il dirait au pécheur, « Désolé, mais tu dois mourir, car la loi, c'est la loi. » On ne peut pas faire autrement. Mais Dieu est amour et justice. Alors, il a inventé la grâce, qui répond aux injonctions de l'amour et de la justice, et qui est un compromis entre les deux. Alors certes, nous méritons la mort, c'est la justice, mais en Lévitique 5, ben rappelez-vous, on offrait en sacrifice un animal innocent en échange de la culpabilité, vie contre vie. Ici, Dieu offre davantage que la vie d'un animal. Il offre en sacrifice, comme on l'a rappelé ce matin, son Fils unique et bien-aimé, à notre place. Il offre sur la croix l'innocence de Jésus en lieu et place de notre propre culpabilité. Oui, à la croix, Jésus, l'agneau de Dieu, est mort pour nous. Il a pris notre place, il a pris sur lui notre nature pécheresse, mais aussi il a pris notre culpabilité. Et aujourd'hui, par grâce, nous sommes libres et nous sommes même reconnaissants. Nous avons de la reconnaissance pour ce que Jésus a fait. Et la grâce, si nous l'acceptons, va spirituellement enlever la dictature du péché dans nos vies. Et le péché n'a plus de puissance sur nous. La grâce enlève aussi notre condamnation, puisque Christ a été condamné à notre place. Et puis la grâce rétablit notre relation avec Dieu, puisqu'en Christ nous sommes pardonnés. Et vous savez que là, il y a un verset qui est extrêmement compliqué, mais avec la grâce, voilà comment Dieu nous voit. Il nous considère comme des êtres nouveaux, des créatures nouvelles. Et voilà ce texte de 2 Corinthiens 5, 17, c'est la façon dont Dieu nous voit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes pour Dieu sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Alors ce n'est pas du jour au lendemain qu'on est transformé, qu'on n'a plus de soucis dans sa vie, on a toujours des soucis, etc. La grâce, elle, elle nous enlève la culpabilité. Elle nous apporte la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et désormais, nous marchons par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Pourtant, la grâce ne nous donne pas un corps nouveau. Le gracier ne reçoit pas un corps spirituellement débarrassé du péché, comme on le pense. Non, elle nous donne l'Esprit du Christ qui va désormais conduire notre corps charnel et pécheur. Et c'est ce que dit Paul. Dans Romains 8, 10, il dit « Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » Voilà, le corps est mort à cause du péché. Donc, frères et sœurs, entendons-nous bien, si nous sommes débarrassés de la dictature du péché, ben c'est vrai, on peut continuer à pécher, on va continuer à pécher. C'est normal, c'est naturel, parce que nous sommes faibles, nous ne sommes pas des surhommes. Et ne nous culpabilisons pas d'encore pécher. Nous sommes certes une nouvelle création, mais pas encore des êtres parfaits. Alors il y a aussi une fausse culpabilité. Et vous l'avez compris, frères et sœurs, on ne peut pas être sous la grâce et vivre avec des culpabilités anciennes. Car nos péchés ont été payés et pardonnés en Christ, sinon ça ne sert à rien. Alors toutes celles et ceux qui vivent des culpabilités anciennes doivent revenir à la grâce. Attention, ceci est important, il ne faut pas confondre la culpabilité avec les blessures et les souffrances. Parce que la culpabilité a besoin du pardon, de la grâce, alors que les blessures et les souffrances ont en plus besoin d'écoute, de soins et de guérison. En acceptant la grâce, nous sommes déchargés de la culpabilité, bien sûr. Mais Christ est mort aussi sur la croix pour prendre sur lui nos blessures et aussi prendre nos souffrances. Ésaïe 53, 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et le psaume 30, verset 3, qui est très beau aussi, « Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Tu m'as guéri. Frères, sœurs, apportons nos souffrances, nos blessures à la croix, osons nous décharger sur Jésus. Alors, notre vie nouvelle est faite de haut et de bas, vous le savez, rythmée par des luttes et des combats entre l'Esprit du Christ et notre corps charnel. Nous sommes certes de nouvelles créatures, mais notre vie n'est pas réglée comme du papier à musique. Par exemple, le péché devrait déclencher chez le chrétien un sentiment de honte et non de culpabilité. J'ai honte de ce que j'ai fait, maintenant que je sais ce que le Christ a fait pour moi. Mais pas de culpabilité, car je reconnais mon péché et je demande pardon à Dieu, qui selon Ésaïe 55, 7, ne se lasse pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et parfois, hélas, le sentiment de honte qui devrait mener logiquement à la confession et au pardon du péché, eh bien, va entraîner le chrétien sur une autre route, celle de la dissimulation et du mensonge. Vous savez, le roi David était, à n'en pas douter, un homme de Dieu. Son cœur appartenait entièrement à l'Éternel, et pourtant cet homme a convoité une femme mariée. Il a commis avec elle un adultère. Il l'a mise enceinte, il a cherché à tromper le mari pour lui faire endosser son forfait, et pour couronner le tout, il l'a fait mourir. Avouez que pour un homme de Dieu, c'est plutôt un bon palmarès. La Bible nous dit que non seulement David n'a pas avoué son crime, mais qu'il a tout fait pour le dissimuler. La honte de ce qu'il a fait l'a conduit à la dissimulation plutôt qu'à l'avouer. Quand le deuil fut passé, David envoya chercher cette femme et la recueillit dans sa maison. Elle devint son épouse et lui enfanta un fils. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Pourtant, dit la Bible, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Alors, c'est quoi la bonne culpabilité ? Ben, vous comprenez bien que nous sommes dans une situation de dysfonctionnement. Que David pêche, on n'a pas le jugé. Sommes-nous meilleurs que lui pour le juger ou le blâmer ? Non. Ce qui dysfonctionne, c'est son silence, sa dissimulation du péché, ne pas reconnaître sa faute. C'est se mettre en danger de mort spirituelle. Et vous savez que Dieu qui est omniscient, il sait tout. Il ne peut pas laisser David sombrer spirituellement. Alors, il va agir dans sa vie de deux manières. La première, il va envoyer Nathan le prophète, qui, au nom de Dieu, lui révèle son crime et va l'amener à une auto-confession. Et puis en même temps, il exerce sur lui une pression intérieure terrible qui va le culpabiliser. Et ça va le culpabiliser dans un premier temps, puis le faire craquer et céder dans un second temps. D'ailleurs, on retrouve exactement cette confession de David dans le psaume 32, versets 1 à 5. Il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Et il dit ceci, il dit « Tant que je me suis tu, que j'ai caché ma faute, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Alors je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Dieu en fait ne laisse pas ses enfants s'enfoncer dans le péché. Il ne joue pas au chat et à la souris avec eux. Il intervient. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu, dit Jésus. Dieu intervient en culpabilisant, et c'est une bonne culpabilité, car elle débouche sur une mise au grand jour du péché qui était caché. Elle débouche sur une reconnaissance de la faute et sur une demande de pardon qui le remet sur de bons rails. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et ça, c'est une bonne culpabilité qui vient de Dieu. Voilà la juste, la fausse et la bonne culpabilité. Mais tout comme il existe une bonne culpabilité positive, utile, constructive venant de Dieu, il existe aussi une mauvaise culpabilité qui, nous l'avons dit, n'a rien à voir avec Dieu. Et l'étude de la mauvaise culpabilité est un vaste chantier que nous devrons, hélas, survoler faute de temps. Mais je n'ai pas non plus la prétention d'avoir fait le tour de toutes les situations. Et autant la bonne culpabilité s'exprime clairement et s'appuie sur l'autorité reconnue de Dieu, eh bien la mauvaise culpabilité, elle, s'appuie plus sur des ressentis, des manipulations, des accusations qui n'ont aucun fondement biblique, mais qui ont quand même un fond de vérité. Ce sont des culpabilités que nous, chrétiens, ne devrions ni endosser, ni porter. Alors, je vais donner quelques exemples concrets et nous allons étudier quelques mauvaises culpabilités. Par exemple, les culpabilités inversées. Elles sont ainsi appelées car ce sont des situations dans lesquelles la victime devient coupable d'une responsabilité qu'elle ne devrait pas porter. Jean-Luc a été un enfant battu. On lui a fait comprendre et croire que s'il avait été battu, c'est simplement parce qu'il était désobéissant et méchant. Et aujourd'hui, eh bien, Jean-Luc porte encore cette culpabilité. Marie, elle, a vécu le divorce de ses parents alors qu'elle avait 10 ans. Et elle est restée persuadée que si ses parents se sont séparés, eh bien, c'est entièrement de sa faute. Battre un enfant, divorcer, cela relève de l'entière responsabilité des parents. Même si un enfant désobéit, on peut le punir autrement qu'en le frappant. Et des parents responsables ne divorcent jamais à cause des enfants. Il y a aussi les culpabilités liées aux devoirs. Vous savez, ce sont les « tu dois »,« il faut » et toutes les situations dans lesquelles on a tendance à généraliser. Par exemple, les parents de Michel lui disent « tu dois t'occuper de ton frère ». Ils font reposer sur ses épaules des responsabilités qu'il n'a pas à porter. Et bien souvent, des culpabilités en cas d'accident. Vous savez, Caïn, dans la Bible, n'a pas fait que de bonnes choses. Mais il a eu une parole juste lorsqu'il a dit « Suis-je responsable de mon frère ?» Vous avez un autre exemple. Tous les hommes font ça. Toutes les femmes savent faire ça. Mais moi non. Et cela me culpabilise. Pourtant, j'ai le droit de ne pas faire ou de ne pas savoir faire. Et puis un autre exemple, dans le couple, le fameux devoir conjugal, où l'on culpabilise celui qui ne peut pas ou qui ne veut pas. Il y a aussi les culpabilités liées au perfectionnisme. C'est lorsque l'on fait peser sur ses propres épaules ou celles des autres des exigences insurmontables. On a toujours demandé à Patrick d'être le meilleur en tout. Il ne supporte pas d'échouer et se culpabilise même des échecs relatifs. Il y a des gens qui se culpabilisent d'avoir 17 sur 20 au bac. Les culpabilités liées aux manipulations. Alors, les manipulations, ce sont des manœuvres conscientes ou inconscientes destinées à tromper pour culpabiliser, afin d'obtenir ce qu'on veut. À Flavigny, par exemple, chaque semaine, eh bien, entre midi, nous faisons du jogging avec un collègue. Eh bien, quand lui ne peut pas ou n'a pas envie, eh bien, il me dit « aujourd'hui, on ne court pas ». Bon, ben, d'accord. Et quand c'est moi, il me dit « ah non, hein, on s'était engagé à le faire, non, tu ne peux pas nous faire ça, il faut le faire hein. ». Et ça me culpabilise. Autre exemple, Isabelle est mariée à 2 enfants. Elle va voir sa maman âgée tous les 15 jours et l'appelle au téléphone 3 fois par semaine. Et depuis que sa maman s'est fait opérer, eh bien, sa maman veut qu'elle passe la voir tous les soirs. Ça représente 1h30 de route. Et puis, quand elle vient, sa maman lui fait des reproches. « Si je meurs, c'est de ta faute !» Depuis, elle a des soucis de couple, elle a des problèmes avec ses enfants. C'est vrai que la manipulation des sentiments culpabilise celui qui l'a subi. Alors, face à la manipulation, une arme de choc, savoir dire non. Moi, j'ai du mal des fois, mais savoir dire non et s'y tenir sans se culpabiliser. On a le droit de dire non. Les culpabilités religieuses. Alors, ce sont souvent des culpabilités liées au « j'en fais pas assez », « je ne prie pas assez », »,« je ne lis pas assez la Bible », »,« j'en fais pas assez ». Alors, si vous voulez culpabiliser un pasteur, hein, je ne vous dis pas de le faire, hein, mais si vous voulez culpabiliser un pasteur, demandez-lui de justifier son emploi du temps. Un pasteur qui est salarié de l'Église se culpabilise toujours de ne pas en faire assez. Et le risque pour l'Église, c'est que le pasteur, pour se justifier, eh bien, en fasse trop. Et fasse tout. Alors que l'Église a besoin d'un pasteur, bien sûr, qui travaille, hein, c'est normal, mais qui soit disponible et surtout disponible à la volonté de Dieu. Mais pour chaque chrétien, c'est pareil, il en va de même. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons partout, en burn-out, mais là où Dieu veut que nous soyons. Alors, on pourrait citer beaucoup de culpabilités liées à la religion, mais j'aimerais parler de la culpabilité liée au témoignage. Et vous le savez, nous témoignons grâce à la puissance du Saint-Esprit. On est tous d'accord avec ça. C'est bien le Saint-Esprit qui nous fait témoigner. Jésus dit d'ailleurs à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Matthieu 10, 20. Nous avons envie de témoigner, partager notre foi, et parfois nous n'osons pas. Et puis des fois, on ne le fait pas. Et nous pensons que parler de Dieu est une obligation et que si nous ne le faisons pas, nous déshonorons gravement Dieu. Peut-être même que nous fermons la porte du salut aux pécheurs et ça culpabilise. N'est-ce pas, enfin je vous pose la question, n'est-ce pas prétentieux de penser que l'avenir des pécheurs dépend uniquement de nous ? C'est le Saint-Esprit qui ouvre des portes et les ferme. C'est lui qui nous offre des occasions de parler et s'abstient quand ce n'est pas le moment. Le sage Salomon écrivait « Il y a un moment pour toute chose. Il y a un moment pour parler et puis aussi un moment pour se taire. » Même lorsque le Saint-Esprit ouvre une porte et que nous n'osons pas parler, eh bien je vous assure qu'il pourvoit autrement. Sans nous culpabiliser, car l'Esprit fait la différence entre la peur et la désobéissance. Moi, je peux vous donner un exemple. J'étais jeune ancien, j'animais une étude biblique chez une famille du haut du Lièvre. Et puis, d'un seul coup, il y a une discussion qui s'est entamée, interminable. Elle s'engageait sur une interprétation biblique. Et j'arrivais pas à régler le problème. Bon, ça arrive, hein. Alors, j'ai clairement entendu dans mon cœur le Saint-Esprit qui me parlait, qui disait cette phrase « Arrête et prie ». Bon, honnêtement, j'ai pas osé le faire. J'ai pas osé dire « Arrêtez et on prie ». Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a la jeune fille de la maison, qui avait 8 ans, qui est arrivée, elle est entrée dans la pièce, et c'est vrai, je vous assure, elle a interrompu la discussion par ces mots « Vous ne pouvez pas arrêter et prier ?» Eh bien, je vous assure que la discussion a cessé, nous avons prié et l'étude a pu continuer. Voilà, je ne me suis pas culpabilisé, mais j'ai dit, si j'avais fait, ça aurait été mieux, quoi. Les culpabilités liées aux charges indues. C'est quand on nous fait porter des responsabilités qu'on ne veut pas porter, ou alors qui sont au-dessus de nos compétences. Alors, il y a de cela très longtemps, une dame de l'Église, dès qu'elle rencontrait une jeune femme maghrébine et lui parlait de Dieu, prenait son adresse et elle demandait à Wardia d'aller la visiter. Wardia, c'est ma femme. Elle la culpabilisait si elle n'y allait pas. Mais en réalité, Wardia ne s'est jamais engagée à visiter toutes les maghrébines de Nancy. Hein. Personnellement, moi, je n'ai aucune compétence dans tout ce qui est administratif ou chiffre. Ça, c'est pas mon don, pas du tout. Franchement, c'est même l'inverse. Et si vous me nommez un jour président de l'Église ou comptable, je ne vais pas y arriver et cela va me culpabiliser. Donc voilà, c'est au-dessus de mes compétences. Il n'est donc pas bon de charger indûment quelqu'un et nous-mêmes avons le droit de dire non et refuser une responsabilité que nous ne pouvons pas assumer. Les culpabilités qui sont liées au manque de pardon. Et nous l'avons dit, c'est grave de pécher. Pourtant, c'est normal que nous péchions encore ou que nous ayons de mauvaises pensées. Reconnaissons nos péchés, confessons-les à Dieu. Et Dieu, si nous venons à lui d'une manière sincère, pardonne nos péchés et il les efface. Malgré tout, c'est vrai, on a contre nous un accusateur, Satan. Dans Apocalypse 12:10, on peut lire « Il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Et c'est vrai, là aussi, on va être culpabilisé parce que Satan dénonce tous nos péchés à Dieu, surtout ceux qui n'ont pas été reconnus. Il nous rappelle même les péchés qui ont été pardonnés. Toutes ces accusations, frères et sœurs, sont à remettre à notre avocat qui s'appelle Jésus-Christ, d'après 1 Jean 2:1. Il siège auprès du Père et défend notre cause jour et nuit. Dieu nous a pardonnés en Christ. Le pardon est donc une puissance qui libère. Qui libère le pardonné et aussi celui qui pardonne. Si quelqu'un refuse de pardonner, eh bien, il se charge d'un poids. Car Christ a payé pour ses fautes et lui refuse de, et celui qui refuse de rendre à Dieu et au prochain ce que Dieu a fait pour lui. Ben, il peut être difficile de pardonner pour quelqu'un. Dans ce cas, il est bon de se faire aider. Mais refuser de pardonner, c'est se charger d'un péché, risquer de s'enfoncer dans l'amertume et culpabiliser celui qui implore le pardon et ne le reçoit pas. Vous le voyez, chers frères et sœurs, il existe une juste, vraie et bonne culpabilité qui vient de Dieu et qui a une action positive dans notre croissance spirituelle, mais aussi une fausse et une mauvaise culpabilité qui ne doivent être ni acceptés ni portés. Et je le dis, si ce matin, quelqu'un est chargé de fausses ou de mauvaises culpabilités, si quelqu'un porte des souffrances ou des blessures, eh bien, il peut venir dès maintenant, en toute confiance, se décharger sur Jésus. En effet, nous allons passer maintenant à un moment de Sainte-Cène auquel nous allons à présent participer. Et c'est une invitation tout à fait favorable pour déposer ses fardeaux aux pieds de Jésus. La scène, qui est le repas du Seigneur, c'est un moment symbolique. C'est un symbole fort et profond de la grâce. En prenant le pain ce matin, et je vais demander à Jean-Lionel s'il veut bien, et à Françoise, et puis à Dominique et Jean-François, mais il n'est pas là Jean-François. D'accord. Ben, je vais demander quand même à Dominique et puis à Vincent s'ils veulent venir. En prenant le pain ce matin, eh bien, nous nous souvenons que le Christ est venu mourir sur la croix pour briser dans nos vies le pouvoir du péché. En prenant le jus de la vigne, nous nous souvenons que si le sang du Christ a coulé sur la croix, eh bien, c'est aussi pour effacer nos fautes, nos péchés et nos iniquités. Mais vous le savez, nous l'avons dit, en mourant sur la croix, Jésus a aussi pris sur lui nos blessures, nos souffrances et nos fausses culpabilités. Il s'est chargé, Jésus. Il s'est chargé pour nous décharger. J'invite donc celles et ceux qui ont compris et accepté le sacrifice du Christ, la grâce, à partager le repas du Seigneur et à déposer au pied du Christ, au pied de la croix, à la fois les fardeaux et toutes leurs souffrances. Pour ceux qui n'ont pas accepté ou pas compris encore le sens de la grâce, on peut venir déposer ces fardeaux quand même. Pendant que passent les éléments, nous allons prendre un chant que vous connaissez, « Je dépose à tes pieds mes fardeaux ». Voilà, donc j'appelle les personnes...